débat africain, Madeleine Mukama-Bano.
Bonjour à tous. Le mardi 7 avril débuteront les cérémonies marquant la 15e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda. À cette occasion, le débat africain vous propose un état des lieux du pays 15 ans après ce drame qui a fait plus d'un million de victimes en l'espace de 3 mois et transformé des milliers de simples citoyens en assassins. Pour ce débat, nous sommes en compagnie de Gassana Ndoba, professeur de littérature francophone à l'Université nationale du Rwanda, l'Université de Butare, ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il est aujourd'hui consultant, notamment auprès de la Conférence internationale des Grands Lacs. Joseph Ndahimana, médecin en Belgique, ancien militant politique, il est membre de l'Institut rwandais de recherche et de dialogue pour la paix. Et Jean-Paul Kimonyo, chercheur en sciences sociales, rattaché à l'Université de Butare. Il a publié l'année dernière aux éditions Cartala un ouvrage intitulé « Rwanda, un génocide populaire ». Monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. L'une des spécificités du cas rwandais, c'est que le génocide des Tutsis et le massacre des Hutus de l'opposition n'ont pas été seulement le fait des membres des corps constitués comme l'armée ou la police, mais aussi de citoyens ordinaires, citadins ou paysans qui se sont mis à tuer leurs voisins. Au cours de mes reportages, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants assassins. Le plus jeune avait 8 ans au moment des faits. J'ai rencontré des mères qui avaient tué leurs enfants parce que le père était Tutsi. Ce qui fait qu'au lendemain du génocide, le défi de la réconciliation semblait totalement insurmontable. Est-ce qu'aujourd'hui ce défi a été relevé, Joseph Nahimana?
La réconciliation est un objectif noble et dans ce domaine, il n'y a pas de temps à perdre. Ça fait maintenant 15 ans. On s'y a essayé, des efforts ont été fournis, que ce soit du côté gouvernemental rwandais, que ce soit du côté de la population rwandaise ou des citoyens rwandais en général, que ce soit aussi du côté de la communauté internationale. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, donc après 15 ans, on n'avance pas, on tourne à rond. Il y a des chicanes, notamment sur les terminologies ou les qualifications des crimes qui ont eu lieu. Il y a des Hutus qui hésitent à reconnaître que le génocide des Tutsis a bien eu lieu, alors qu'il a eu lieu au grand jour. Il y a aussi des Tutsis, notamment au sein du parti dominant, donc le FPR au pouvoir, des Tutsis qui font une exploitation inadmissible de ce génocide, au mépris notamment de la mémoire et du respect qui doit être dû aux victimes et aux rescapés donc de ce génocide.
Donc pour vous, entre Hutu et Tutsi, il reste des frictions très importantes. Vous écoutez.
Pas seulement des frictions, il y a un jeu honteux, un jeu de la fuite des responsabilités. Tout Hutu normal devrait n'avoir aucun intérêt à nier ce génocide, mais aussi les victimes du génocide, d'une part donc en tant que communauté ou en tant que citoyen rwandais Tutsi, et d'autre part le mouvement qui est étiqueté d'être proche ethniquement donc de ces victimes, le FPR.
Le Front Patriotique Rwandais.
Le FPR, donc devrait faire en sorte de ne pas retarder justement ce rapprochement indispensable entre les Rwandais. Personne n'a commis ce génocide dans l'intérêt d'aucun peuple rwandais, qu'il soit Hutu, Tutsi ou toi, et que donc ça a été une erreur politique et que nous devons nous en sortir très rapidement.
Oui, alors on va revenir tout à l'heure aux aspects politiques. Jean-Paul Kimonyo, là Joseph Ndahimana exprime ce qu'on entend souvent chez les Hutus, on n'a pas tué à notre nom.
La spécificité du génocide Rwanda, c'est d'avoir été massif aussi bien au niveau du nombre des gens qui ont commis le génocide, à savoir qu'il y a une participation populaire massive d'un côté, et de l'autre un nombre très important du nombre de tués au niveau de la population qui était visée. Et dans un pays où il y a un génocide doublement massif comme cela, on ne peut pas s'attendre à ce que tout se passe aussi bien qu'on le voudrait, d'une part. Mais d'autre part aussi, même malgré ce fait-là, si on prend un certain nombre de critères objectifs, ce pays-ci, depuis 15 ans, fonctionne. Il a un très bas taux de violence. Je parle même de violence criminelle, hein, simple criminalité. Il n'y a plus de violence politique du tout. Il n'y a presque plus de violence, ou pas du tout, de violence ethnique en tant que telle. Donc c'est un pays qui est profondément pacifique, d'une part, mais d'autre part aussi extrêmement dynamique économiquement. Au Rwanda, les gens vivent leur vie. On ne pense pas au génocide tous les jours. Au contraire, même maintenant, il y a un certain nombre de gens qui viennent de l'extérieur, qui nous disent, mais vous semblez avoir oublié ce qui s'est passé. On n'a pas oublié, c'est dans nos cœurs à nous tous, mais nous sommes obligés de vivre. Et obligés, mais aussi nous voulons vivre. Maintenant, vous savez, le génocide a eu une telle profondeur, au niveau non seulement des gens qui ont commis le génocide, au niveau des gens qui ont été victimes ou rescapés, ou alors des populations qui sont associées aux rescapés, que même la population générale a du mal à accepter de façon sereine qu'on en parle. Le fait de parler simplement du génocide peut sembler à un certain nombre de personnes blessant, excessif, juste le fait d'en parler.
Quel type de personnes alors?
De façon précise, je dirais que les gens qui sont de façon lointaine associés aux personnes qui ont commis le génocide, que ce soit leurs parents, leurs amis, ou même de façon un peu politiquement incorrecte, les gens qui font partie un peu du même bord ethnique, entre guillemets. Donc, pour un certain nombre de gens, parler de génocide est une provocation, pratiquement. Tellement le génocide a blessé les cœurs.
Donc pour vous, les Hutus qui ne sont pas au pays ne supportent pas qu'on parle du génocide?
Un certain nombre, oui, j'en suis tout à fait convaincu. Alors qu'au Rwanda, dont nous sommes passés à travers plusieurs phases dans ce génocide-là, dans les premières années, on ne parlait que de cela. Et ça, jusqu'il y a 7 ou 8 ans. Oui. Maintenant, nous sommes plus à ce niveau-là.
Oui, Gassana Ndoba. En général, quand on va au Rwanda, qu'on va sur les collines ou dans les quartiers des villes, on a l'impression, en effet, que la réconciliation est faite. Est-ce que c'est de la résignation ou vraiment de la réconciliation?
Les deux, je crois. Je crois que il y a au Rwanda effectivement deux aspects qui coexistent par rapport à cette problématique de la réconciliation. Il y a d'un côté le fait que le gouvernement, quoi qu'en ait dit Joseph Ndahimana, fait beaucoup pour la réconciliation et que du point de vue d'un certain nombre de victimes survivantes, les rescapés, il fait trop. Par rapport à la réconciliation, il fait des concessions, c'est ce que j'entends autour de moi un certain nombre de fois, pas seulement chez les rescapés ou chez des rescapés, mais aussi parfois chez des gens qui sont venus de l'extérieur, mais dont les membres de famille ont été tués pendant le génocide. D'un autre côté, il y a ce sentiment chez les personnes, comme le disait Jean-Paul, qui sont proches des accusés ou des suspects de génocide, qui, au fond, aimeraient bien que cette page soit tournée une bonne fois pour toutes. Vous vous souviendrez peut-être des propos déjà il y a une quinzaine d'années ou 14 ans du premier ministre de l'époque qui disait un deuil qui dure 3 mois ou 4 mois, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'était évidemment inacceptable pour les victimes. Il est difficile d'accorder tout le monde autour d'un événement comme le génocide. C'est un événement tellement immense qui touche tellement de sensibilités à la fois, aussi bien du côté de ceux qui l'ont subi que de ceux qui l'ont commis ou de ceux qui l'ont vu se commettre ou de ceux qui sont proches des deux camps ou des trois camps, y compris la communauté internationale. Je ne suis pas étonné qu'il y ait des polémiques dans ce sens et je pense que ces polémiques vont durer. C'est inévitable. Mais dans le fond de l'intervention de Joseph Ndahimana, j'ai senti quelque chose d'autre qui me gênait, qui était un peu l'affirmation que sans le gouvernement, les Rwandais se réconcilieraient tout seuls. Le gouvernement a l'air, ou le FPR, qui est le parti dominant au sein du gouvernement rwandais, dans les propos de notre collègue, semblait passer pour être l'empêcheur de se réconcilier en rond, en quelque sorte. Or, comme je le disais, certains au Rwanda, au contraire, ont le sentiment qu'il en fait trop, ce gouvernement, le FPR, en particulier au sein de son gouvernement. Donc je peux vous assurer qu'au sein de la population rwandaise, ce point de vue n'est pas le seul existant, en tout cas. Mais au-delà de ça, j'ai toujours pensé que pour faire un état de droit, il faut un état. Et il est heureux que le Rwanda ait réussi à reconstruire un état. Le Rwanda est un pays qui s'est reconstruit à partir de circonstances extrêmement difficiles, mais qui est arrivé à un certain niveau aujourd'hui de cohérence et de cohésion nationale et de relance de l'économie. Tout ça était indispensable et on ne peut pas imaginer la réconciliation elle-même se faisant sans un gouvernement qui, de façon dialoguée avec la population, apporte des incitants à la réconciliation, organise les facteurs autour de ce phénomène pour que la population converge vers cela, sans bien sûr exercer la contrainte. L'équilibre n'est pas facile à trouver. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des débats. Au bout de ces 15 années, évidemment, il y a eu des succès et des échecs. Il y a aussi des processus qui continuent encore. Et je pense que la réconciliation fait partie de ces processus de longue durée, parce que jusque-là, nous en parlons sur le plan global et collectif, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la réconciliation est aussi individuelle ou inter-individuelle. C'est les victimes, d'un côté, qui doivent se réconcilier
avec leurs bourreaux, oui.
Voilà, et ça, c'est pas évident du tout. Il y a aujourd'hui, en Europe, des victimes ou des proches de victimes du nazisme qui sont incapables d'entendre parler des Allemands, encore moins des nazis ou anciens nazis. Ça, vous le savez bien, au bout de deux générations, les choses ont progressé, mais elles ne sont pas pour autant terminées. Et il y a des propos qu'on peut entendre encore aujourd'hui sur les Allemands qui montrent combien, dans les sensibilités d'autres pays européens, nous ne parlons pas de la sensibilité juive. Ce genre d'événement a laissé des traces. Au Rwanda, c'est pareil. Et nous prendrons, nous mettrons du temps avant de trouver une manière harmonieuse de coexister. Mais ce dont je peux vous assurer pour vivre au Rwanda depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu des progrès considérables.
Oui, Joseph Ndahimana, l'un des outils de cette réconciliation, ça a été toutes ces campagnes avec des agents qui sillonnaient le pays, avec des réunions, des organisations, mais il y a eu aussi cette justice, une justice un peu originale, pour juger des milliers et des milliers de gens qui avaient participé au génocide. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une réussite?
Tout d'abord, sur le fait que des gens qui seraient proches des génocidaires auraient des problèmes à ce qu'on parle du génocide. Donc, moi, j'espère que je ne compte pas parmi ces gens-là. Et j'aimerais bien que tout le monde le sache. Sinon, on va verser dans une sorte de fascisme, de dire qu'un tel est proche d'un criminel. Moi, je n'ai jamais, depuis le 6 ou le 7 avril 1994, je n'ai jamais donné l'impression à qui que ce soit de souffrir ou d'être gêné par le fait qu'on dénonce le génocide. Concernant le caractère massif dont Kimonyo a parlé et sur lequel revient Gassana, le caractère massif donc des participants au génocide et des victimes donc du génocide, c'est vrai, il y a eu une implication massive de la population dans le génocide. Il y a eu aussi un nombre inestimable donc de Tutsis qui ont été tués pour être Tutsis. Mais le génocide n'est pas né sur les collines. Il n'est pas provenu des collines. Ce serait donc négliger le contexte de ce génocide que pour le mettre sur le compte du nombre des participants, donc les paysans, ou du nombre des victimes, en l'occurrence donc les Tutsis. Ce génocide est né d'un conflit de lutte pour le pouvoir qui opposait le FPR au régime donc, du MRND. Et tant qu'on fait semblant d'ignorer ce contexte et qu'on essaie de remettre sur le compte uniquement donc, d'une participation massive, comme si ce génocide était un phénomène qui serait né d'un marché ou donc d'une masse d'individus à hors contexte, ça serait tricher avec l'histoire. C'est pour cela que quand je dis que le FPR ou le régime dominé par lui est un empêcheur réel de la réconciliation, je n'ai pas l'impression d'inventer des problèmes.
Mais dans quel sens?
Dans le sens où le FPR veut faire du génocide une sorte de marchandage à l'égard de la population, pour dire à cette population qu'elle doit se taire, qu'elle doit ne pas dire certaines vérités de l'histoire du Rwanda, qu'elle doit dire seulement que les Hutus ont tué les Tutsis. et que comme si tout cela était tombé du ciel, comme si tout cela n'était pas dans le contexte d'une guerre qui venait de durer 4 ans. Un objet de marchandage aussi auprès de la communauté internationale, à laquelle le régime demande de se taire, parce que, bien sûr, cette communauté internationale n'a pas pu intervenir pour mettre fin au génocide.
Jean-Paul Kimonio.
Oui, par rapport à la question de savoir si le gouvernement est une entrave à la réconciliation, moi je voudrais rappeler un petit peu, les premières années après le génocide. En fait, le gouvernement a réconcilié les Rwandais contre leur gré, pratiquement. Ça veut dire qu'au lendemain du génocide, il a tout fait pour étouffer les ardeurs subjectives des uns et des autres, et notamment en interdisant l'utilisation des identifications ethniques en public, pour justement essayer de calmer les ardeurs des uns et des autres. Et la question aussi de la restriction de la liberté de parole rentre aussi dans ce cadre-là. À savoir que, c'est vrai, Daïman a raison, le génocide a été une question politique, d'une part, mais pas seulement. Ce qui est politique, c'est aussi une dimension idéologique et une idéologie profonde.
Mais quand Daïman vous dit, le parti dominant, le Front patriotique rwandais, parle du génocide, mais ne parle pas du contexte dans lequel il a été commis.
Et bien entendu qu'il en parle. Le premier contexte qu'il voulait rappeler, le vrai contexte du génocide, le plus profond, c'est un contexte idéologique. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a des luttes de pouvoir. Il y a beaucoup de luttes de pouvoir, il y a même des guerres civiles qui se font. Mais tout ne se termine pas par un génocide total, comme il s'est fait au Rwanda. La question sous-jacente de tout cela, c'est à savoir le contexte idéologique dans lequel le génocide a eu lieu, à savoir que après la révolution de 1939, les Tutsis de l'intérieur ont été considérés comme des non-Rwandais, qui étaient pratiquement pris en otage. Et dans la mesure où des gens associés à ces Tutsis-là allaient remettre en cause l'ordre républicain Hutu, ils étaient condamnés. Au-delà des batailles politiques, il y avait une dimension idéologique profonde, d'où notamment le génocide total.
Oui, Gassana Ndoba.
J'ai entendu pas mal de débats sur la problématique de la contextualisation du génocide. J'ai hélas très souvent constaté que la contextualisation aboutissait à la minimisation ou à l'explication par des facteurs extérieurs à la volonté des gens. Quand on parle de contexte de guerre, bien souvent, précisément, on ignore la dimension idéologique longue qui a marqué les 30 années qui ont précédé le génocide, mais aussi la volonté politique et la planification du génocide, qui, elle, n'est pas le résultat de la guerre, mais le résultat de l'idéologie qui était en place et de la manière dont ceux qui se battaient pour le pouvoir du côté du MRND, le parti au pouvoir à l'époque, et qui était jusque quelques années avant le génocide, le parti unique, voyait le Tutsi, future victime, comme précisément l'ennemi à abattre. Et en réalité, les 4 années de ce fameux contexte de guerre ont été des années où la planification a été réalisée, affinée et finalement réalisée en acte concret de génocide. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une guerre qu'il y a eu un génocide. Nous devons bien nous entendre. Et le fait qu'il y ait eu en Allemagne un contexte de guerre ne change rien au fait que dès 1933, le programme du parti nazi était un programme anti-juif et qui prenait des allures de plus en plus extrêmes au fur et à mesure que les années passaient, indépendamment du phénomène de la guerre. Et Joseph Ndahimana, en traitant le gouvernement d'empêcheur de se réconcilier, je sens quelque chose qui va un peu vite dans la conception de la réconciliation. Peut-on imaginer une réconciliation qui se ferait entre gens, entre individus, après un génocide, entre citoyens? Ce serait concevable si précisément le génocide était un acte purement inter-individuel.
Oui, justement, dans la deuxième partie de cette émission, juste après le journal, nous allons parler de la réconciliation politique, du rôle de la politique dans la réconciliation.